Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Je confesse hardiment. Mon esprit est ouvert. Mon intelligence est réceptive. Mon cœur est prêt à recevoir la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et je ne serai plus jamais le même. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Au nom de Jésus. Amen. Le titre du message ce matin, c'est la révélation du nom. Le psaume 119, verset 130 dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Nous avons besoin constamment de révélation. Il y a des choses qui nous sont cachées, des choses qu'on découvre. De la même façon que dans le naturel, on apprend des choses au fur et à mesure. Et bien d'autres choses spirituelles sont aussi cachées et sont découvertes peu à peu. Et vous vous rappelez dans les évangiles, à un moment, le Seigneur Jésus dit « Tout scribe instruit de ce qui concerne les choses du royaume de Dieu, c'est comme quelqu'un qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Il y a des choses qu'on sait, et puis il y a des choses qui sont anciennes qu'on a besoin de sortir à nouveau. Quand il y a eu la période de la ruée vers l'or, j'aime donner cet exemple, la ruée vers l'or, ça veut dire qu'ils ont découvert un pays où il y avait tellement d'or que des fois il suffisait de voir dans le fond d'une rivière, dans le lit de la rivière, il y avait de la poussière d'or, il y avait quelques pépites. Mais ceux qui voulaient vraiment devenir riches, ils ont dû prendre leur pioche et puis creuser profondément et trouver là les vrais filons. Avec la parole de Dieu, c'est pareil. Quelqu'un en superficie peut des fois ramasser quelques petites pépites par-ci par-là, mais pour d'autres choses, nous avons besoin d'aller plus profondément. C'est ainsi que dans les Éphésiens, vous connaissez certainement ce passage que je vous cite simplement. Dans Éphésiens 3, nous prions que Dieu nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Tout le monde dit l'homme intérieur ? L'homme intérieur, c'est notre esprit, c'est le vrai nous. En sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, et que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Si nous on prend un univers en trois dimensions, on se dit pourquoi là il y a quatre dimensions qui sont indiquées. Parce que si vous avez la largeur, la longueur et la hauteur, vous pouvez définir n'importe quoi dans l'univers dans lequel on habite. Mais il y a encore la profondeur. Ça, c'est la dimension spirituelle, celle qui échappe trop souvent à des gens. C'est ainsi qu'une connaissance superficielle de Dieu fait des gens qui sont religieux, qui croient tout savoir. Ah oui, je connais Dieu, je sais ceci, cela, je connais quelques faits historiques. Je connais quelques aspects théologiques. Mais nous voulons ce matin, nous voulons progresser dans la révélation du nom. Est-ce que vous voudriez que Dieu vous révèle quelque chose de lui? Alors si vous le désirez vraiment, et si vous le croyez, vous pouvez dire à votre voisin, tu vas apprendre quelque chose de nouveau ce matin. Pas parce que moi je suis celui qui sait tout et qui vais vous donner mon savoir, mais parce que Dieu vous révèle quelque chose. Si vous avez cette soif en vous, moi, je ne pense pas avoir cerné tous les aspects de Dieu. De très loin, je ne pense pas du tout en être arrivé là. Je crois plutôt que plus on avance avec lui, plus on se rend compte combien il est encore infiniment plus grand. Mais ça ne doit pas nous décourager parce qu'il y a d'autant plus de joie à découvrir les autres aspects. Néanmoins, nous sommes une génération privilégiée puisque déjà, je vous le rappelle, nous avons une Bible complète dans le sens que les croyants de l'ancienne alliance, ils avaient juste un morceau de ce qui est notre Bible, d'accord ? Et ensuite, même du temps du Nouveau Testament, ils avaient juste quelques rouleaux qui étaient ici et là, et qu'ils se passaient les uns aux autres. Donc, nous avons maintenant dans la Bible toute la révélation de Dieu. Pourtant, nous n'avons pas cette révélation, sauf si le Saint-Esprit nous le donne. Et moi, j'aimerais qu'on puisse avancer sur la révélation du nom. Je prends Actes chapitre 4 et verset 10. Parce qu'il dit, sachez-le tous. Donc, tout le monde doit le savoir. Ça doit se savoir, y compris dans le corps de Christ. Il y a des choses qu'on pense qui sont évidentes. Non, elles ne sont pas évidentes. On a besoin d'une révélation. Peut-être vous avez l'habitude d'entendre certaines choses aussi par rapport au chant de louange que nous utilisons. Mais nous avons besoin encore et toujours de nous encourager là-dedans. C'était juste après le contexte de la guérison du boiteux, celui qui était assis à la porte. Il voulait recevoir quelque chose, on l'avait installé pour qu'il mendie. Et les apôtres, Pierre et Jean, sont venus. Ils ont dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce que j'ai, qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils avaient le nom de Jésus. Et pour eux, ça voulait dire quelque chose. Ce n'était pas juste comme ça pour faire joli dans nos chants chrétiens du culte, d'utiliser le nom. C'est parce que quelque chose a été donné au corps, le nom. De la même façon, notre société évolue maintenant, mais pendant de nombreuses décennies, voire siècles, quand une femme se mariait, eh bien, elle prenait le nom de son mari. Elle recevait son nom. Et ça voulait dire quelque chose. Des fois, c'était un nom avec une particule. On pouvait gagner en même temps un château ou un héritage ou que sais-je. Mais donc, ces choses qu'on comprend dans le naturel, après, ça fait que si vous avez le nom de quelqu'un, ben vous partagez le chéquier, vous avez un compte joint, parce que vous avez le même nom, que vous êtes dans une situation d'alliance avec quelqu'un. Mais donc, ça veut dire quelque chose, recevoir le nom. Et maintenant, donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on sache tous ? Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il dit c'est par le nom. Et il ne dit pas c'est Jésus qui a guéri. Il dit c'est par le nom de Jésus qu'il a été guéri. Vous savez que la Bible ne laisse aucune trace, aucune part au hasard ou à des imprécisions. Si c'est dit comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est pour que nous ayons une révélation sur la puissance qui est dans le nom, sur ce que ça représente. Parce que le nom de Jésus et la personne de Jésus sont une et même chose. Il n'y a pas des choses différentes. Donc, si nous avons le nom et que nous avons cette relation avec Jésus, nous avons accès à ce que ce nom représente. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et vous imaginez que les gens religieux, les chefs qui voulaient leur interdire de vivre leur foi chrétienne, ils ont compris la puissance qui est dans un nom. Parce qu'au verset 17, il dit « Afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » D'accord ? Ils avaient réalisé. Parce que pour eux, la religion juive n'était pas une seule et grande religion unifiée où tout le monde pensait pareil. Il y avait déjà à l'époque, nous le savons dans les évangiles, les sadducéens, les pharisiens, on parle des esséniens, plusieurs groupes. Et les gens n'étaient pas toujours d'accord. Jean-Baptiste avait ses disciples. Les gens n'étaient pas tellement choqués non plus que maintenant ce jeune rabbin ou prophète de Nazareth ait aussi ses disciples et qu'il parcourt le pays. Par contre, quand ils ont vu que finalement Jésus n'était pas simplement un parmi beaucoup d'autres, mais qu'il était le seul et l'unique, et que dans son nom il y avait des miracles qui se produisaient, et il y avait une révolution qui était en train d'avoir lieu, ils ont dit, on ne peut pas accepter que vous continuez de propager ce nom. Verset 18, les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Donc ils avaient bien identifié, il y a un problème pour eux avec ce nom. Et pour nous, c'est l'inverse. La solution est dans ce nom. Donc l'importance du nom. Le nom donne une révélation au sujet de la personne. Peut-être ça a un petit peu disparu maintenant, mais dans les temps bibliques, c'était très important. Le choix du nom ne se faisait pas au hasard non plus. On voulait appeler le fils de Zacharie, on voulait l'appeler Zacharie comme son père, mais l'ange lui a dit non, tu ne vas pas l'appeler Zacharie, Jean sera son nom. Et il s'est appelé Jean, il a écrit sur la tablette, son nom est Jean. Tout le monde était surpris. L'ange est venu chez Marie, lui a dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé, on l'appellera Emmanuel. On l'a jamais appelé Emmanuel, Jésus, hein. Mais c'était simplement un nom, on pourrait presque dire un nom adjectif pour le qualifier de quelque chose, que c'était la réalité que Dieu venait au milieu des hommes. Et il y avait beaucoup d'autres attributs de ce nom, quand on l'appellera Prince de la paix, Père éternel, admirable, conseiller, Dieu puissant, tous ces noms qui ont été prophétisés sur Jésus. Donc tout ça était important. Donc beaucoup de civilisations donnaient des noms en rapport avec des événements ou des choses particulières. Et donc maintenant, nous sommes dans une civilisation où ça n'a pas changé. Il y a toujours une importance pour le nom. J'interpelle peut-être particulièrement les jeunes, tous ceux qui sont sur Internet, sur les messageries, MSN, etc. Ben, ils ont tous des pseudos. La plupart du temps, ce n'est pas leur nom, mais c'est des pseudos. Qu'est-ce que c'est un pseudo ? C'est un nom de remplacement. C'est des fois parce qu'on s'invente un personnage ou on se cache derrière une autre identité. Ça ne veut pas dire que c'est forcément dans le but de mal faire ou de tromper les gens, mais on s'invente un personnage. Bon, ça c'est normal. Autrefois, les gens jouaient aussi à ça et voulaient être Zorro ou Tarzan ou je ne sais quoi. Ils inventent un nom parce que c'est quelque chose qu'ils ont envie d'expérimenter. Et maintenant, c'est simplement la technique moderne qui s'exprime d'une façon autrement, mais l'homme, la femme, le jeune, l'enfant a besoin d'imagination, de rêve, etc. Mais donc là encore, on voit l'importance du nom. Des fois, c'est vrai que ça peut aussi révéler, si on n'aime pas son nom, on n'est pas bien dans sa peau, on veut être quelqu'un d'autre, ou alors on a un pseudo, c'est pour faire des choses en cachette. Pour ne pas révéler son vrai nom, on prend un pseudo. On peut donc se poser la question, des fois, pourquoi certains ont choisi tel pseudo ou pourquoi ils le font. Mais donc, il y a une réalité au niveau du nom, de la personnalité et de qui nous sommes réellement. Et maintenant, Dieu, Adam et Ève le connaissaient bien puisqu'ils parlaient avec lui, étaient en communion, etc. Mais quand le péché est entré dans le monde, au bout d'un moment, il y a eu plus de communion avec Dieu et c'est devenu quelqu'un de mystérieux, quelqu'un qu'on ne connaissait plus. Et la Bible dit que Dieu a laissé toutes les nations prendre leur propre direction et il fallait qu'ils cherchent Dieu comme en tâtonnant, quoi qu'ils n'aient cessé de leur parler et d'essayer d'attirer leur attention. Mais c'est comme si c'était un peu dans le noir, comme si on devait de nouveau chercher réellement à connaître Dieu, de savoir qui il est. Et donc, on a une révélation progressive de qui est Dieu. Pas instantanée et pas totale, puisque nous-mêmes, on n'en sait rien maintenant encore. On le connaît un peu, de ce qu'il nous en a montré. Vous avez une révélation que Jésus est réellement le Messie, le Sauveur. Ça vous a fait entrer dans la famille de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore de Dieu. Alors, on a des personnages qui sont connus dans notre culture biblique et qui nous sont familiers et qui ont eu des rencontres avec Dieu. Par exemple, Abraham, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais Dieu s'est révélé à lui, a dit « Je suis l'Éternel, je suis le Dieu très haut, ta récompense sera grande parce que tu as foi en moi. » Il lui a donné une alliance, le signe c'était la circoncision, déjà un premier signe qu'il fallait... Pour une alliance avec Dieu, il fallait qu'il y ait du sang qui coule. Et Abraham a fait une autre expérience. Dans Genèse 22, 14, quand il a eu cette déclaration, quand son fils Isaac lui a dit, voilà, on a le feu, on a tout ce qui est prêt pour l'offrande, mais où est l'agneau qui servira? Et Abraham dit cette parole prophétique sans réaliser ce qu'il disait, parce que il était en train de parler sous l'inspiration de l'Esprit. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Et quand il a prophétisé sur ce qui s'est passé après, vous savez que le bélier était retenu dans ses cornes dans un buisson, et en même temps il annonçait déjà le sacrifice de Jésus, que Dieu allait pourvoir pour l'agneau qui ôte le péché du monde. Et cela a donné l'expression qu'on connaît bien, Yahvé Jiré ou Jéhovah Jiré selon le cas, et la phrase totale c'était à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Un nom qui définit Dieu, Adonai Jiré, et en même temps une révélation, Dieu est celui qui pourvoit. Vous voyez, chaque fois une révélation. Abraham avait une révélation, l'Éternel, le Dieu très haut, celui qui récompense. Maintenant, il y a une autre révélation. Dieu est celui qui pourvoit. Moïse a eu une révélation dans l'épisode du buisson ardent. Il a dit, mais si je vais vers le peuple que tu m'envoies et je dirais, mais quel est le Dieu? Ils vont me poser des questions. Quel est ce Dieu? Comment est-ce qu'il s'appelle? Et là, il a eu la révélation. Il dit, je suis. Tu leur diras, je suis, m'envoie. Donc c'était une révélation, je suis, c'est pas quelque chose qu'on peut facilement définir, c'est quelqu'un qui est hors du temps, qu'on ne peut déjà pas contrôler, qui ne voit pas le temps comme nous le voyons. Nous le voyons d'une façon linéaire. Nous naissons, on grandit, on vit un certain temps, puis on meurt. C'est comme si on pourrait tracer la ligne de notre vie, le fil du temps, et Dieu, lui, il est hors du temps. On ne peut pas le définir comme nous. Donc il est autre. Et il est toujours présent. Il était dans le passé, il était déjà dans le futur et il est maintenant. Donc un nouvel aspect de Dieu. Dans Exode 15, 26, à la sortie du pays d'Égypte, la Bible nous dit dans le psaume 105 qu'il n'y avait aucun qui chancelait dans leur tribu. On comprend par là que Dieu les a non seulement délivrés de l'esclavage, il leur a donné l'or et l'argent des Égyptiens qui ont dit on vous donne tout ça mais partez par pitié, quittez le pays rapidement, et donc il les a en même temps enrichis, et au travers de leur expérience d'alliance avec Dieu ils se sont retrouvés même fortifiés dans leur être physique. Dieu a fait un miracle de totale délivrance pour le peuple, et il y a cette révélation, Exode 15, 26, je suis l'Éternel qui te guérit. C'était pas dans un cas de maladie où quelqu'un est venu et dit Seigneur, aide-moi. C'était une révélation disant ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous montrer que je suis le Dieu des délivrances. Et donc ça, c'est ce que nous chantons des fois dans le chant qui parle des différents noms de Dieu qui donc dans le ciel, Adonai Rapha, je suis l'Éternel qui guérit. C'est Exode 15, 26 la référence. Donc il révèle un nouvel aspect. Il est le Dieu qui guérit. Ensuite, nous avons une autre révélation du nom de Dieu. C'est dans Juges 6, les versets 23-24. C'est l'histoire de Gédéon. Gédéon appelé à être le libérateur du peuple. Voilà ce qui se passe pour lui. C'est qu'il ne connaît pas réellement Dieu. C'était dans une période de confusion. Les gens commençaient déjà à croire tout ce qui leur semblait bon. Il mélangeait. On voit que même le père de Gédéon avait une statue d'une idole dans sa propriété. Donc il y avait une grande confusion entre le culte à l'Éternel et le culte des idoles. Donc Gédéon avait besoin de remettre un peu, je dirais, d'ordre dans ses croyances. Et donc il se rappelle, ou il se dit, au moins je vais dresser un autel. Et je vais là avoir un sacrifice pour Dieu, parce qu'il se rappelle que le sacrifice, ça veut dire se rapprocher de Dieu. Et au moment où il a ce sacrifice, il nous est dit, quand le feu était là et que la fumée a monté, l'ange de l'Éternel est venu et s'est manifesté. Et alors, quand il y a quelque chose de surnaturel qui se passe, quelle est la réaction de l'homme? C'est la crainte. Quand il y a quelque chose de vraiment de Dieu qui se manifeste, c'est la crainte. Toujours un ange, un truc extraordinaire, quelque chose de miraculeux, il y a la crainte. Et c'est là qu'il y a cette révélation du nom. Il dit, je suis Adonai Shalom. Je suis le Dieu de paix. Je suis celui qui donne la paix. Ne crains point. Il lui dit, tu ne mourras pas. Parce que la première chose, c'est de dire, je vais mourir maintenant parce que j'ai vu l'ange de l'Éternel. Donc Dieu révèle une nouvelle fois. Donc il y a beaucoup d'autres révélations du nom de Dieu dans la Bible. Par exemple, 1 Roi 17, nous avons l'histoire d'Élie. Le prophète Élie, qu'est-ce qu'il disait? Il se présentait toujours de cette façon. Il disait, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. En fait, il prenait position spirituellement parce que, vous savez, quand vous avez des centaines de faux prophètes de Baal et d'Astarté face à vous et que vous êtes seul et que les autres qui croient en Dieu se sont tous cachés parce qu'ils ont peur et que vous êtes seul, vous avez besoin d'avoir quelqu'un avec vous. Et donc, il disait ça, on peut dire, pour se rassurer, mais en même temps pour prendre position. Et du coup, la scène, elle change. La façon de voir les choses change. Maintenant, ce n'est plus Élie seul face à des centaines. Maintenant, c'est Élie plus celui qui est l'Éternel, qui est vivant, face aux autres. Alors là, ils ne font plus le poids, on peut dire, puisque Dieu entre en scène. Donc, c'est important. Il avait cette révélation du nom de Dieu. C'est le vivant. C'est ce qu'on chante aussi des fois, El Hai, avec le H. Donc il y a beaucoup de révélations, Dieu notre justice et tout ça. Mais le plus important pour nous, c'est que Dieu se révèle en Jésus. Lorsque Jésus a passé un moment avec ses disciples, déjà un bon moment, certains étaient avec lui depuis 3 ans, et pas juste une fois de temps en temps le dimanche matin, en permanence. Au bout d'un moment, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, Philippe, il y a si longtemps que tu es avec moi, et tu ne m'as pas connu, tu ne sais pas qui je suis réellement. Et il dit cette phrase admirable, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc il y a une nouvelle révélation de qui est Dieu. On peut voir qui est Dieu en regardant à Jésus. Vous regardez toutes les attitudes de Jésus, comment il parle, comment il pense, comment il fait, et vous voyez que c'est une image conforme au Père. Mais Jésus n'est pas venu pour attirer à lui seulement. Parce que dans Jean 14, 6, le fameux verset qui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », nous dit « Nul ne vient au Père que par moi ». C'est ainsi que nous sommes appelés à mettre Jésus-Christ, bien sûr, au centre, c'est le fondement de notre foi, mais en même temps, ne pas avoir une perspective de l'Évangile trop christocentrique. Parce que le Christ, Jésus, est venu pour nous conduire au Père. Vous voyez, ça va plus loin. On vient à Jésus, oui, mais il a dit « Je suis la porte » pour aller au-delà. Au-delà, c'est aller jusqu'au Père, avoir notre relation avec le Père. Et alors Jésus a dit dans Jean 17, 6, dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale, il a dit « Je leur ai fait connaître ton nom ». Il parle à son Père, il dit « Je leur ai fait connaître ton nom ». Alors si Jésus avait révélé un nom, ce serait intéressant pour nous de savoir quel est ce nom qui a été révélé. Alors il y a une secte qui dit « C'est le nom de Jéhovah ». Il faut mettre Jéhovah chaque fois qu'il y a le nom de Dieu, il faut remplacer par Jéhovah. Ben non, parce qu'il n'y a pas de révélation du nom de Jéhovah à ce moment-là. Jéhovah, ou Yahvé, si vous voulez, c'est connu depuis des milliers d'années. Mais Jésus a dit, je leur ai fait connaître ton nom, le nom c'est Père. Même plus précisément, lui, il l'appelait Abba, cher papa. Donc la révélation, c'est que nous avons un Père céleste, qui n'est pas lointain, qui n'est pas distant, qui est accessible, qui est notre cher papa. C'est une révélation. Et qu'il n'est pas du tout intéressé de maintenir les distances avec nous, dire « ne m'approche pas trop, je suis saint, éloigne-toi ». Non, au contraire, la route est ouverte. Jésus nous révèle ce nom. C'est peut-être pour nous maintenant, nous sommes des chrétiens depuis un certain nombre d'années, connaissons les évangiles, nous sommes habitués à un certain nombre de textes, mais je vous assure que dans beaucoup d'endroits au monde et dans certaines cultures, ce serait vraiment un choc énorme de dire qu'on peut avoir cette proximité et cette relation intime avec Dieu. comme avec un cher papa. Et je ne vous parle pas de tous les meurtris de la vie qui n'ont pas connu leur père ou qui ont connu un père abusif ou brutal ou lointain ou que sais-je encore, qui ont des problèmes psychologiques pour identifier Dieu à un père parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mais la Bible peut nous le révéler aussi, peut nous montrer qu'est-ce que c'est vraiment un père. Et nous avons besoin de pères. Aussi, nous avons besoin de pères spirituels et nous avons besoin de pères dans notre nation. Nous avons besoin qu'il y ait des pères à l'image de Dieu, le Père. Non pas que nous serons divins ou on va prendre la place de Dieu, mais dans le sens que certains gens, avant de pouvoir se tenir sur leurs pieds spirituellement parlant, ben, ils auront besoin d'abord d'un appui. Alors, nous serons peut-être ces béquilles humaines utiles pour un temps jusqu'à ce qu'ils puissent marcher. La Bible parle aussi de la loi qui est comme un tuteur jusqu'à ce que Christ soit formé et qu'on puisse se tenir debout. Mais il y a un moment où on a besoin, peut-être pour connaître le Père céleste, spirituel, on a besoin de voir aussi des référents sur terre, de voir des gens qui se comportent comme le Père. Puisque nous n'avons pas, nous, comme les disciples, Jésus vivant sous nos yeux. Parce que Jésus pourrait dire, mais celui qui m'a vu, a vu le Père. Et maintenant, nous pouvons voir Jésus spirituellement. Mais ce serait bien aussi que dans le corps de Christ, on voit des pères et des mères. Parce que Dieu, il est le cher papa, mais il est aussi tout autant le cher maman. Parce qu'en lui, il n'y a pas seulement les attributs qu'on pourrait voir chez l'homme mâle. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin dans l'évangile de Marie qui soit la mère de Dieu, ni la reine du ciel. Il y a tout pleinement en Dieu, père et mère. On peut avoir, on n'a pas besoin de partager les rôles. Vous voyez, le père, c'est celui qui est dur, autoritaire, sévère, fait qu'il y ait de l'ordre. Puis la maman, c'est celle qui est douce, gentille, qui passe les choses. Et donc, comme ça, vous avez l'équilibre global. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans le naturel, non plus, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait comme ça des fausses séparations. La maman ne doit pas dire « Attends, tu vas voir quand ton père va rentrer. » Si elle a quelque chose à dire à ses enfants, elle doit le dire. Et elle doit soutenir son mari, pas se décharger sur lui, ni contredire non plus ce qu'il essaye de faire au niveau de la discipline. Donc voilà la révélation. Nous avons maintenant accès auprès du Père. C'est par Jésus et nous avons reçu ce nom de Jésus. Et il y a de la puissance dans le nom de Jésus. On ne dira jamais assez. Le nom de Jésus est puissant parce que dans le nom de Jésus, il y a le nom de Dieu. D'accord ? Jésus à la française ou Yeshua, le Yé, c'est le même Yé de Yahvé où il y a le nom de Dieu qui sauve, il est dans le nom de Jésus. Et il y a la puissance dans ce nom. Et ce nom est tellement puissant qu'il nous a permis de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Ceux qui ont cru en ce nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pas mal déjà, comme puissance qui est contenue dans un nom. Croire simplement dans le nom de Jésus est ce qui amène les gens à devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Nous parlons aussi des fois, ça revient souvent dans les réunions de prière, dans les églises, si deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et la promesse qui est juste avant, elle est, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il y a donc de la puissance dans le nom, il y a de la puissance dans le fait de se rassembler au nom de Jésus. Maintenant, j'aimerais encore vous montrer un exemple de la puissance du nom qui s'est manifesté à Gethsémani. Prenez avec moi Jean 18. On va voir ce qui s'est passé en Jean 18. Jean 18, c'est Jésus trahi et arrêté. J'ai un petit titre. Pour ceux qui étaient en Israël, si vous pouvez imaginer où est Gethsémani, vous avez cette colline, vous avez le mont des Oliviers en haut. Là, c'est, Jésus se réunissait souvent à ses disciples au mont des Oliviers. Et puis, en descendant un petit peu plus, il y a ce jardin, justement, où il y a ces oliviers anciens. Et là, il y a l'endroit qui s'appelle Gethsémani. Et ça, c'est Donc, il s'est rassemblé au mont des Oliviers avec ses disciples, et là, il s'est écarté avec quelques-uns, Pierre, Jean et Jacques, les plus proches. Il a dit, maintenant, il faut que je combatte spirituellement. Il faut que j'intercède. Pourquoi ? Parce que bientôt vont venir des moments tellement difficiles et des pressions, il faudra que je sois spirituellement prêt. Il avait besoin, tout comme nous, d'être prêt à résister à ce qui va venir. Et c'est ce qui nous trompe des fois. Nous, on attend d'être au fond du trou pour crier à Dieu de nous en sortir. Mais Jésus savait anticiper. Il sait que quand un moment difficile va venir, il faut prier avant. Et il n'avait pas l'occasion de prier après. Et des fois, on fait l'erreur. Et alors, on échoue, et puis heureusement, il y a la grâce de Dieu, il nous restaure, on se remet debout. Mais nous avons besoin aussi des fois de rester debout et de triompher. Donc Jésus est là, et puis j'aime bien la façon dont le pasteur Rick Renner raconte certaines choses de la Bible, parce qu'il sort du contexte religieux. Jésus ne s'est pas mis à genoux et puis il a la prière à Gethsémané. Il était tellement saisi en l'intérieur de lui qu'il a été littéralement jeté par terre. Tellement c'était violent en lui de savoir ce qu'il attendait, de savoir ce qu'il devait affronter. Donc il s'est jeté par terre, il a intercédé, il a prié, il a combattu parce qu'il savait qu'il y avait sa volonté, comme toute personne, de ne pas aimer la souffrance, d'avoir peur de certaines choses. Mais la peur, c'est une chose que chacun peut expérimenter, mais le courage, c'est surmonter la peur à ce moment-là. Donc il était dans ce combat. Tous les autres se sont assoupis, il n'avait personne pour lui aider, mais Dieu lui a envoyé de l'assistance. Un ange est venu pour le fortifier. Vous le savez ça. Et donc, il sort de toute cette épreuve et de toute cette prière en vainqueur. Il a remporté la victoire dans la prière. La croix n'a pas encore eu lieu, mais on peut dire qu'il est déjà vainqueur en avance, parce que maintenant, il a dominé sa propre peur et a dominé sa volonté de ne pas souffrir, et il a pris la décision, il est déterminé maintenant à aller jusqu'au bout. On peut dire donc qu'il sort maintenant de cette épreuve de la prière en pleine possession de ses moyens et en pleine puissance. Et voilà que Judas vient avec toutes ces gens, et voilà ce qu'on peut lire. Au verset 2, Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et les huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux, des armes. Moi, j'ai aussi eu un problème un moment parce qu'on imagine des choses qui ne sont pas. J'imaginais qu'il y avait là une poignée d'hommes qui étaient venus arrêter Jésus. La cohorte s'est déplacée. C'est des centaines de soldats romains. D'accord ? Ce n'est pas juste quelques-uns. Il y avait du monde. Il avait pris la cohorte, plus des huissiers. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et littéralement, donc, il dit, « Je suis. » Il prononce le nom de Dieu. C'est ça que je veux qu'on voit ensemble ce matin. Au moment où il prononce le nom de Dieu, il nous est dit Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur a dit « C'est moi », c'est-à-dire il prononce le nom de Dieu, ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Jésus n'est pas la pauvre victime qui a été prise au piège par le méchant Judas et tous ses soldats. Il est celui qui se livre volontairement. Il a dit à un endroit, il a dit « Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. » Et je voudrais que vous compreniez qu'à ce moment-là, Jésus n'était pas vaincu. Il était en pleine possession de ses moyens, c'est lui qui contrôlait, on peut dire, tout ce qui était en train de se passer. Dès qu'il a prononcé le nom de Dieu, ils sont tous tombés par terre, ils ont reculé. Tellement il y a une puissance qui s'est dégagée de lui. Et à Pilate, il dira plus tard, et il dira, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si ça ne t'avait pas été donné d'en haut. Et je pourrais à l'instant invoquer d'où mon père qui me donnerait 12 légions d'anges, et je pourrais être délivré. Donc il n'est pas vaincu. Et c'est important pour nous de réaliser, il l'a fait parce qu'il a voulu le faire. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous ? » Ils répondirent, « Jésus de Nazareth. » Il répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Donc, il contrôle la situation. C'est lui qui commande, on peut dire. Il dit, « Je suis d'accord que vous me preniez, mais ceux-là, vous les laissez partir. » Et à ce moment-là, donc, il nous est dit que quand ils ont voulu saisir Jésus, c'est là que Pierre a réagi charnellement et a coupé l'oreille d'un serviteur. À nouveau, Jésus intervient. Il dit à Pierre, « Non, arrête, tu ne dois pas faire ça. » Et il guérit l'oreille du serviteur. Il est encore en pleine possession de ses moyens et il contrôle tout parfaitement. Après, on peut être étonné parce que dans la Bible, il nous est dit que Jésus, au bout d'un moment, n'a plus dit un seul mot. Parce que s'il avait dit le moindre mot, il aurait été justifié parce qu'il était juste. Si Jésus avait dit « Mais je suis innocent », il n'aurait rien pu faire contre lui parce que cette parole aurait été tellement forte que personne n'aurait pu s'y opposer. Il fallait à ce moment-là qu'il ne dise plus un seul mot parce que n'importe quel mot de Jésus aurait pu le justifier. Il ne pouvait pas dire non plus « Je suis coupable » parce qu'il n'était pas coupable. Donc, ils étaient étonnés parce qu'il ne disait rien. Mais il ne pouvait rien dire. D'accord ? Sinon, le plan de Dieu n'aurait pas pu s'accomplir. Alors, voilà, on est dans cette situation. Il dit maintenant, bon, vous laissez aller cela et vous me prenez moi. Et dans Marc, maintenant on va voir le parallèle dans Marc 14. Donc, au verset 46. Donc ça, c'est l'épisode où ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. À ce moment-là, un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, on sait que c'est Pierre, frappa le serviteur, lui emporta l'oreille. Dans Marc, il n'est pas dit que l'oreille a été guérie, mais c'est dans un autre évangile. C'est pour ça qu'il nous faut lire toute la Bible. Donc, Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand. » Et au verset 50, « Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Tout le monde l'a quitté cette fois-ci. Jésus l'avait dit, « Laissez-les partir. » Tout le monde est parti. Alors, vous avez qui maintenant ? Vous avez Jésus, la cohorte et les huissiers du souverain sacrificateur. D'accord ? Et maintenant, que voyons-nous verset 51 ? Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. Un jeune homme suit... Alors, qui était ce jeune homme ? Si vous vous rappelez de nouveau comment est situé Gethsémané par rapport au mont des Oliviers, nous sommes en plein cimetière. Cette colline est un cimetière depuis des milliers d'années. En réalité, le mot grec pour drap, c'est un linceul. Un jeune homme était mort, il avait un linceul, et tous les disciples sont partis, et voilà qu'il y a un jeune homme qui est derrière Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une résurrection. La puissance du nom de Jésus, prononcé « Je suis », a provoqué une résurrection. Alors, ils se sont dit, alors la dernière des choses qu'on a besoin maintenant, c'est qu'il y ait un témoignage de résurrection. Attrapez ce jeune homme et ne le laissez pas dire qu'il était mort et qu'il vient d'être ressuscité, parce que c'est pas bon pour ce qu'on est en train de faire. Alors il nous est dit, on se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Donc il voulait l'attraper, surtout qu'il ne parle pas, mais ils n'ont réussi qu'à attraper son vêtement, qui était en fait un vêtement de mort. C'était un linceul. Ils avaient le linceul dans la main et le jeune homme s'est sauvé tout nu. Mais ça c'était pour vous montrer que jusqu'à ce moment encore, la puissance de Dieu était là, rien que par l'utilisation du nom. Le nom. Donc, ne devrions-nous pas aussi réaliser que dans la Bible, quand il est dit dans les 10 commandements, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Ça nous parle de la sainteté de ce nom. Sainteté, ça veut dire que c'est un nom à part. Et il ne faut pas le dire à tort et à travers pour jurer ou pour dire toutes sortes de choses. Il y a certaines expressions qui doivent disparaître aussi chez les chrétiens, peut-être parce qu'on s'en rend pas compte. Mais bon, vous pouvez dire flûte ou zut, ça fait de mal à personne. Mais il y a des choses qu'il ne faudrait pas dire. Et nous devrions réaliser qu'il y a des choses qui sont saintes et qui sont à part. Je pense même que l'expression « bon sang », par exemple, fait une référence au sang de Jésus pour le banaliser. Et ça ne doit pas sortir nos lèvres comme ça facilement. Mais ici, comprenons donc la puissance qui est dans le nom. Mais en même temps, j'aimerais dire, le nom seul n'a pas de valeur. Certains ont cru comme un peu de la magie, hein, le nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. La maman au Mexique, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Jésus, hein, beaucoup de petits garçons, ou en Espagne, ils s'appellent tous Jesús. Alors si la maman, elle appelle son petit garçon, Jésus, viens à table, c'est midi, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de gens qui tombent par terre, il n'y a pas de malades qui sont guéris. Parce que pourtant, on pourrait dire c'est le nom de Jésus. Alors quoi? Il a perdu de son efficacité. Le nom de Jésus, il n'est valable que quand il est en rapport avec la personne de Jésus. Et il n'est puissant dans votre bouche que si vous-même avez une relation avec la personne de Jésus. Donc le nom de Jésus est puissant et il faut l'utiliser et on a le droit de l'utiliser. Mais en rapport avec la personne elle-même. Parce que même du temps de Jésus, il y avait des gens qui s'appelaient comme lui. Puisque c'était un dérivé d'un nom qui était relativement commun. D'ailleurs, certains ont changé un petit peu leur nom parmi les disciples après, parce qu'ils s'appelaient aussi Jésus, donc il fallait faire attention à ça. Donc, réalisons cette puissance qui est dans le nom, mais elle n'est pour nous que si nous sommes en Christ. J'aimerais terminer simplement parce que Dieu veut qu'on puisse avoir cette foi dans le nom. Et je voudrais qu'on puisse prendre ensemble le psaume 91. Parce que nous vivons dans une période où il y a des choses autour de nous qui vont de moins en moins bien. Entre l'air pollué, entre l'eau polluée, entre la vache folle, la grippe aviaire, et j'en passe. Entre le terrorisme ou je ne sais quoi encore, nous sommes menacés de toutes parts. Alors, nous ne voulons pas être comme des autruches à mettre notre tête dans le sable. Nous voulons affronter cette réalité. Parce que je dis ici, les chrétiens doivent être découragés et désespérés ou pleurnichés. Que peut faire alors celui qui ne connaît pas Dieu? Non, au contraire, nous devons être des personnes qui montrent que malgré les circonstances, malgré toutes les choses négatives, nous sommes appelés à relever notre tête. Jésus avait dit, si vous voyez toutes ces choses se passer, commencez par relever votre tête parce que votre délivrance est proche. Et même si nous ne sommes pas pleinement délivrés de l'épreuve, parce qu'il y a des choses que le monde doit traverser, vous savez, on ne va pas vivre dans un monde où tout va bien. Et puis vous avez l'enlèvement de l'Église et brusquement le monde bascule et tout va mal. Non, nous sommes déjà en train de voir les premières choses se passer. Il y a déjà des manifestations de ce qui attend le monde qui ne va faire que s'amplifier. Mais nous ne sommes pas délivrés de ces circonstances. Nous pouvons néanmoins vivre sous la protection de Dieu. Et dans le psaume 91, il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre » du Tout-Puissant. Vous vous rappelez que l'ombre de Pierre guérissait des malades? Ce n'était pas réellement son ombre physique. C'était l'onction de Dieu qui était sur lui et qui se dégageait de lui. On peut dire que c'était une manifestation de la gloire de Dieu qui irradiait de son corps. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Si vous ne le dites pas, il ne le sera pas pour vous. C'est aussi simple que ça. Croire dans son cœur ne suffit pas. La Bible dit, croire dans son cœur et déclarer de sa bouche. Si vous pensez, Dieu est mon rocher, mon forteresse, c'est bien. Mais le dire, c'est mieux. Parce que ça prend plus d'importance. Vous voyez, Jésus savait qui il était. Mais c'est seulement quand il a dit, je suis, que quelque chose s'est produit. Pas avant. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, terreur, c'est terroriste, ça va ensemble, hein, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Jusqu'à présent, c'était à la deuxième personne du singulier. On le disait à quelqu'un. Il dit, voilà ce qui peut t'arriver. Celui qui demeure, on parle à la troisième personne, si quelqu'un demeure, s'il dit à l'Éternel qu'il est son refuge et sa forteresse, alors voilà ce qui est pour toi. Et maintenant on a parlé à deuxième. On t'a dit toutes les promesses, tout ce qui est rattaché. Ensuite, on passe de nouveau à une autre partie. Car tu es mon refuge, ô Éternel. On s'adresse de nouveau à Dieu. Maintenant, on parle de nouveau à une personne qui met en Dieu sa confiance. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. La promesse que le diable a utilisée pour tenter Jésus. Pourtant, c'est une promesse. Les anges te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. À nouveau des promesses. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puis c'est fini. Il y a une autre partie. Maintenant c'est Dieu qui parle. Et il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, regardez avec moi, puisqu'il connaît mon nom. D'accord ? Parce qu'il a la révélation du nom. Voilà pourquoi je peux le protéger. Comprenez que Dieu ne peut pas arbitrairement protéger les uns et laisser les autres sans protection. C'est une question de foi par rapport à la parole. Si nous avons la révélation du nom et que nous agissons selon la parole, on est au bénéfice de certaines choses. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera. Invoquer, ça veut dire appeler. En général, on appelle quelqu'un par son nom. Et je lui répondrai, parce que ça veut dire qu'on le connaît. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et on va déclarer ça ensemble. On va dire, j'aime Dieu et il me délivrera. Il me protégera. Parce que je connais son nom. Je l'invoquerai et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera et je le glorifierai. Et il me glorifiera. Ça va dans les deux sens. On donne gloire à Dieu, mais lui aussi nous glorifie. Ça veut dire que les gens voient quelque chose de la gloire de Dieu sur nous. Il me rassasira de longs jours. Il me fera voir mon salut ou son salut. Il me rassasira de longs jours. Ça, c'est une promesse pour ne pas avoir une vie abrégée avant qu'on ait fait ce que Dieu attend de nous. Vous savez, il y a un plan à réaliser. Des fois, ça prend du temps. Déjà, Dieu prend 10, 20, 30, 40, 50 ans pour nous former, pour qu'on puisse enfin être efficace pour le ministère. J'ai dit l'autre jour, je pense que des fois j'ai l'impression que toute ma vie passée n'a été qu'un temps de préparation pour ce qui va arriver. J'ai l'impression qu'on n'est pas encore rentré même dans les choses que Dieu a prévues. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. C'est de la préparation, mais en vue de quelque chose. Alors si ma vie s'arrête maintenant, alors que je viens à peine de finir le début de ma préparation, c'est trop tôt. Donc il faut même veiller à ça. Donc vous voyez comment vous pouvez utiliser la puissance de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour la révélation de qui tu es. Nous avons besoin de grandir dans cette révélation. Seigneur, nous voulons vivre cette journée vraiment dans ta présence et sous ton regard. Révèle-toi à nous. Que notre relation avec toi soit sans interruption. Que nous puissions avoir ce temps de communion, où nous te parlons et nous entendons de toi sans cesse. Merci pour le nom de Jésus. Et je proclame le nom de Jésus sur nous tous et sur tous ceux qui écoutent. Parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Merci pour le nom de Jésus. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.